BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session de questions-réponses. Vous le savez, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez sur le secteur crypto à cette adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. On y répond très régulièrement avec mes invités. Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Enzo.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous avoir tous les deux. Vous nous écrivez, on vous répond. C'est parti pour une demi-heure de solutions. Avec cette première question de Vincent pour vous, Morgane, je souhaiterais obtenir votre avis sur la crédibilité et la fiabilité de Nexo. Comment cette plateforme, par ailleurs, est-elle capable de fournir des taux d'intérêt si élevés comparés à ses concurrents, Morgane?
Tout à fait. Alors, Nexo permet de faire deux choses. Premièrement, on va pouvoir déposer nos actifs sur Nexo et on va pouvoir demander de la liquidité, donc c'est-à-dire recevoir de la monnaie fiduciaire. Mais on peut faire l'inverse aussi sur Nexo. C'est-à-dire qu'on peut y déposer nos crypto-actifs et on va générer des intérêts. Quand on se connecte aujourd'hui sur la plateforme de Nexo, eh bien on voit que Nexo propose jusqu'à 13% par an de rendement sur une trentaine d'actifs différents, notamment XRP. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Nexo arrive à générer ces fameux rendements? En fait, Nexo va prendre vos actifs, il va les prêter à des emprunteurs institutionnels, mais aussi de détail, et il va exiger une surgarantie. Et comment est-ce que Nexo va se payer? Nexo va en fait se payer sur la différence entre les rendements qu'il va pouvoir générer en prêtant vos actifs et les intérêts qu'il va vous donner. Cette petite marge, eh bien, ça va lui permettre parfois d'être plus attirant que ses concurrents au niveau des rendements qu'il va vous proposer. Ensuite, de manière générale, Nexo existe depuis 2018 et il n'y a jamais eu de grand hack sur Nexo, il n'y a jamais eu d'impossibilité aussi de retirer vos fonds. Donc ça, c'est les points plutôt positifs pour la plateforme. Et je dirais que les points un peu plus négatifs, c'est qu'on est quand même dans le monde de la centralisation. Nexo, c'est une plateforme qui va prendre en gestion vos actifs pour vous. Et donc, comme d'habitude, s'il y a un problème, s'il y a une mauvaise gestion, vos actifs, malheureusement, ils peuvent en payer le prix. Donc, je dirais que de manière générale, on ne met pas 100% de son portefeuille sur ce type de solution-là. Et puis surtout, on réalise qu'au plus on va générer du rendement, au plus on va prendre du risque.
D'accord, c'est bien noté, Morgane, pour ces deux aspects. Une question toujours sur l'utilisation et sur les plateformes. C'est Raphaël qui vous demande, Enzo. J'aurais une question concernant CoinDepot, plateforme centralisée. Première question, pouvez-vous nous en dire plus sur la sécurité de la plateforme, Enzo?
Mais en fait, tout simplement, CoinDepot, je ne connaissais pas spécialement, mais on va dire que c'est un Nexo surboosté. Alors, le premier point positif, et le seul, je dirais, que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont stocké leurs actifs sur Fireblocks, ce qui fait qu'on a une transparence sur les dépôts logiquement de l'ensemble des utilisateurs. En revanche, quelques points négatifs, ils ne sont pas MiCA pour le coup. Alors après, comme dans le cas de Nexo, ils peuvent avoir des réglementations liées aux établissements de crédit, donc à voir exactement quel genre de produits ils utilisent. Ils ont eu un audit de Certic et Hakem, mais l'audit n'est pas spécialement publiquement, on ne peut pas le vérifier exactement. On a des conditions générales d'utilisation qui sont catastrophiques pour les utilisateurs, c'est-à-dire que vous acceptez directement, dans le cas de perte, de tout perdre et juste de ne rien pouvoir dire. Et pour finir, on n'a pas une très grande audience non plus sur LinkedIn, sur Google et sur ce genre de choses, qui fait que moi je trouve ce genre de produit risqué. Alors en conclusion, ça va dépendre, je dirais, du montant. Si vous voulez utiliser et exploiter, on va dire ça, pour 1000 euros et essayer de générer effectivement 23%, pourquoi pas, pour 1000 euros, on peut se permettre de les perdre éventuellement. Si c'est 100 000, pour le coup, c'est toute une autre histoire et je pense que pour moi, là, le risque ne vaut clairement pas le gain derrière.
Raphaël se pose aussi une question concernant le stacking. Il propose actuellement 23% d'APR sur USDC et bien d'autres. Est-ce que ce rendement vous semble réaliste et durable et quels sont les risques associés, Enzo?
Alors justement, Morgane en parlait un petit peu. Les risques, je pense, sont clairement cristallisés et je ne pense pas que ce rendement puisse être durable. Pour expliquer un petit peu, justement, Nexo, c'est 10% environ, entre 10 et 13% de rendement. Coinbase, c'est 3,5%. Donc, quand on est au-dessus de 20, c'est qu'on va aller chercher du risque, forcément quelque part, du risque, du levier, etc., etc. Donc, plus on va avoir de rendement, plus on va avoir de risques. Et attention, je dirais, au Celsius bis, puisque un des concurrents de ce genre de plateforme, il y a encore quelques années, était Celsius, qui ont eu des problèmes de trésorerie et ont aujourd'hui fermé, ayant perdu l'argent de leurs clients. Donc, je pense clairement que CoinDepot peut prendre ce genre de trajectoire. En revanche, pour terminer, je dirais en conclusion que tant qu'ils ne sont pas MiCA ou qu'ils n'ont pas un agrément plus solide que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire rien du tout, je ne mettrai pas mes actifs là-bas.
Voilà, Raphaël, on vous aura donné notre avis. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez continuer à nous écrire sur crypto@bfmbusiness.fr. Vous voyez cette adresse qui apparaît en bas de votre écran. Ibrahima vous demande, Morgane, Render est-il une bonne crypto? Est-elle une bonne crypto pour l'investissement à long terme d'ici 2035?
Tout à fait. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est d'abord Render? On va commencer par ça. Render, c'est le projet, le but, c'est de pouvoir échanger de la puissance informatique de manière évidemment décentralisée. En fait, c'est un réseau peer-to-peer de GPU connectés. Leur but, c'est de révolutionner le monde du rendu 3D, donc ils s'attaquent au monde des effets spéciaux, au monde de l'animation également. Et leur objectif pour eux, eh bien, c'est... Ils ont réalisé que pour passer d'une photo 3D, par exemple, qui ne serait pas très réaliste, à une photo de haute qualité, il faut une puissance de calcul qui est colossale. Et leur objectif, eh bien, c'est de permettre aujourd'hui aux particuliers de donner cette fameuse puissance de calcul aux entreprises et aux particuliers qui en ont besoin. Et le particulier, eh bien, il a une incentive, il va être payé avec le token de Render. Donc ça, c'est vraiment la mission, finalement, du projet. Quand on dézoome, parce que pour répondre à la question, est-ce que le projet sera toujours là en 2035? Est-ce que c'est un bon investissement? Forcément, c'est toujours très compliqué en réalité de répondre à ce type de questions-là. Parce que quand on remarque ce qui se passe en ce moment sur le marché des altcoins, parce qu'en fait, quand on dézoome, eh bien, Render, c'est un altcoin et il fait partie d'une sous-catégorie. Une sous-catégorie dont on entend beaucoup moins parler en ce moment, c'est les DePIN. On entend beaucoup parler, par exemple, de Hyperliquid, c'est des DePERP. Mais c'est vrai que les autres altcoins, malheureusement, ils n'ont pas eu de grand momentum. Et donc, ce qu'il va falloir prouver, c'est est-ce qu'en 2035, le projet Render, premièrement, sera toujours là? Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que Bitcoin aura un momentum? Puisque je rappelle que sans Bitcoin, qui est le leader de notre écosystème, eh ben, c'est très compliqué pour les altcoins de pouvoir se réveiller. Et on a vu que même quand Bitcoin performe, ça ne veut pas forcément dire que les altcoins vont suivre. Donc voilà, ça fait beaucoup de conditions. Et puis à ce moment-là, il faudra voir si les altcoins ont aussi effectivement un momentum vers le haut. Est-ce que la catégorie des dépines va faire partie des catégories gagnantes où de l'argent des investisseurs vont entrer? Et puis ensuite, est-ce que Render va pouvoir tirer son épingle du jeu? Donc ça fait beaucoup de conditions ici. C'est vraiment un pari. Render a une belle mission. Maintenant, il n'y a aucune garantie que le projet sera toujours là. Et j'ai envie de dire que, comme tous les projets crypto sur lesquels on va nous poser ce type de questions, Sandra, il va falloir y avoir une adoption. C'est-à-dire que sans adoption, un projet, il meurt. Donc, est-ce que Render va réussir à avoir une belle adoption sur les 9 prochaines années? Est-ce qu'il va réussir à être utile pour être utilisé? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser si on veut parier sur un projet comme celui-ci. Et je donnerai une deuxième dimension à ma réponse. C'est, ce n'est pas parce qu'un projet performe et est adopté et est utilisé que forcément ça a un impact sur le token, sur le jeton. Et ça, on le remarque notamment avec Ethereum en ce moment. Ethereum est fortement utilisé. Et c'est pas pour ça qu'on a eu, en tant qu'investisseur, et je pense que la plupart des investisseurs sur Ethereum, ça fait quelques années qu'ils attendaient peut-être d'autres rendements que ce qu'on a eu. Donc attention, prendre aussi ça en compte. Peut-être que Render va bien performer. Est-ce que ça aura un impact sur son token? Ça, c'est une autre question.
Et la question de Rodolphe pour vous, Enzo. Ma fille de 13 ans est détentrice d'un CTO avec des titres vifs. Cependant, je souhaite diversifier son épargne en lui achetant mensuellement des petites sommes de crypto de type Bitcoin. Quelle plateforme me conseillez-vous? À noter que je suis détenteur d'un compte Bitstack.
Alors, déjà, je trouve que c'est un excellent projet. Oui. La problématique, en fait, en somme, elle est que c'est compliqué d'ouvrir un compte pour quelqu'un qui est mineur. Donc, généralement, on va devoir créer soit un sous-compte ou alors... Ben, ce que je vais proposer du coup à Rodolphe, ça va être dans le cas où il souhaite avoir une simplicité d'utilisation pour sa fille comme du DCA, donc des versements programmés et un achat automatique, avoir la possibilité de stocker son argent sur une plateforme solide et qu'il connaît. Je pense que comme il connaît déjà Bitstack, il n'y a aucune raison de vouloir ouvrir un compte sur une autre plateforme. Donc, je pense que Bitstack peut être bien adapté. Et puis, voilà, même si elle ne peut pas forcément être titulaire du compte, ben, il va falloir garder une comptabilité dédiée. C'est-à-dire que l'ensemble des transactions que Rodolphe va faire pour lui-même, les tenir sur un fichier dédié, et l'ensemble des virements et transactions réalisées pour sa fille, les détenir sur un autre fichier Excel, par exemple, ou n'importe quel document, pour pouvoir en fait tracer cette comptabilité, pour pouvoir dire, ben voilà, ça c'est à ma fille, ça c'est à moi. Parce qu'aujourd'hui, avoir un compte pour un mineur, toutes les plateformes ne le proposent pas.
Ah oui, c'est ça, mais je veux dire, la comptabilité, la traçabilité des opérations, la plateforme les propose, on a tous
possibilité. Oui, mais s'il n'y a qu'un seul compte, comment est-ce qu'entre Rodolphe et sa fille, ils vont se disperser ces bitcoins-là? C'est juste une manière de pouvoir comptabiliser plus facilement. Mais sinon, voilà, il peut commencer lui-même pour sa fille à commencer à en acheter maintenant. C'est la meilleure solution.
En tout cas, c'est une très bonne idée, Rodolphe. Il y a Anthony qui nous demande, Morgane, j'aimerais savoir si lorsque sur une plateforme d'échange, on transforme une partie de nos cryptos en monnaie fiat, est-ce que cette somme est soumise à l'imposition, même si elle ne sort pas de la plateforme, dans le but de la réinvestir éventuellement plus tard sur une autre crypto ou la réinvestir à un autre moment? Bonne question d'Anthony.
Tout à fait, c'est une bonne question. En fait, le seul filtre que vous devez utiliser pour savoir si vous allez être soumis à de l'imposition, c'est est-ce qu'il y a une cession d'actifs? Est-ce que je vais vendre une crypto pour 2 l'euro? Si la réponse est oui, vous êtes face à un acte qui va générer de l'imposition, que vous allez rentrer dans votre formulaire 2086 et vous allez être soumis potentiellement à la taxe flat en tant que résident français si vous êtes au-dessus de l'exonération des 305 euros. Donc, le fait que vous transitiez vos euros par après sur votre banque ou que vous les réinjectiez, que vous les laissiez sur la plateforme, ça n'a aucun impact. La seule question, le seul filtre que vous devez utiliser, c'est est-ce que je fais une cession d'actifs? Eh bien, si c'est positif, vous allez être soumis à l'imposition.
C'est bon à savoir. Après, il y avait cette solution de passer par des stablecoins à un moment. Est-ce que ça, pour le coup, c'est une solution qui permet d'éviter cette flat tax?
Exactement, Sandra, puisqu'en fait, quand on fait une conversion de crypto à crypto, il y a un sursis d'imposition et donc il n'y a pas d'imposition. Et comme vous restez dans l'univers des cryptos, même si c'est un stablecoin, alors comme on est en Europe, on va probablement privilégier l'USDC qui est MiCA compliant. Mais tout à fait, qu'est-ce que ça vous permet de faire en réalité? Ben, ça vous permet de ne pas faire une cession d'actifs et donc de ne pas avoir cette fameuse imposition et obligation de déclaration également, même si vous êtes en dessous des 305 euros d'exonération.
Voilà pour une réponse très complète d'Anthony. Il y a Louise qui nous dit « J'habite vers Orléans, quelle belle ville. Y aurait-il des personnes qui donneraient des cours sur les cryptos? Comment acheter et protéger son portefeuille? Car je constate que beaucoup de personnes perdent énormément d'argent sans notion. » Enzo, est-ce qu'on a une réponse à lui donner?
Alors, je n'ai pas spécialement trouvé d'acteur à Orléans particulièrement, mais je dirais que la démarche déjà est la bonne, puisqu'on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas. Donc, effectivement, la première chose étant de se former. Ensuite, pour le projet de Louise, comment acheter et protéger son portefeuille, on va dire que c'est ce qu'il y a de plus basique. Donc, je dirais que des formations en ligne vont largement convenir pour ce type de projet. Et je pense que vous trouverez largement sur YouTube des vidéos pour 3-4 heures de vidéos qui vont vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Et ce sera gratuit. Si vous voulez faire ça de manière un peu plus professionnelle et que vous êtes un individuel, vous pouvez utiliser votre CPF. Alors, il y a quelques sociétés en France qui aujourd'hui proposent des formations qui vont être liées à la blockchain et au fonctionnement des crypto-monnaies. Et si vous êtes une entreprise, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le fonds de formation avec des entreprises qui sont certifiées Calliope, comme la mienne par exemple, avec laquelle je forme des banques, etc., pour les former sur tous ces différents types de sujets. La complexité, en revanche, du contenu sur Internet, c'est qu'il est généralement en anglais. Donc, effectivement, si on veut de la news qui soit fraîche, eh ben, il faut aller chercher un petit peu, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a de l'IA, et que payer 20 euros par mois ChatGPT ou Claude va vous permettre de lui demander de vous créer un programme de 3-4 heures de formation gratuitement. Il sera extrêmement qualitatif parce que ce sont des données très basiques et en fait vous allez pouvoir commencer tout simplement. La deuxième chose, je dirais, c'est après s'être formé, c'est l'expérimentation. Et donc plutôt que commencer avec 1000, 10 000 euros, c'est commencer avec 5 euros comme on le dit à chaque fois. Et puis là, tester et vous verrez que ça sera la meilleure façon d'apprendre généralement quand on ne connaît pas tout.
Petit pas par petit pas, on est bien d'accord, mais c'est vrai que la démarche est la bonne, il faut toujours se renseigner. Et quand vous le voyez bien, quand vous nous demandez si telle ou telle crypto est bonne, on vous dit d'abord de vous intéresser au projet, à ce qui qu'il y a derrière. Enfin, vraiment, il faut se renseigner sur toutes les actions que vous faites dans ce secteur. Christian nous demande, pour vous Morgane, puis-je transférer des cryptos depuis un CEX, Binance, Kraken, Bitpanda, Coinbase, eToro par exemple, sans vendre mes cryptos?
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est en fait une des plus-values. Le mot qui a été utilisé par d'autres auditeurs, c'est CEX, SEX, Centralized Exchange. Donc, c'est une plateforme, a priori, qui est spécialisée dans l'univers des cryptos. Et la grosse plus-value d'utiliser ce type de plateforme-là, c'est justement que vous n'avez pas à faire la vente de vos cryptos actifs pour pouvoir les sortir de la plateforme. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, comme on l'a déjà mentionné, vous avez une cession d'actifs si vous faites la vente de vos cryptos et donc vous allez générer une imposition. Là, la grosse plus-value, c'est que sur ce type de plateforme, vous pouvez toujours sortir vos cryptos vers un portefeuille qui vous appartient, vers aussi une autre plateforme. Et avec l'actualité en ce moment, je pense que certaines personnes vont devoir apprendre à faire des transferts sur la blockchain. Et la grosse plus-value sur les centralized exchange, je spécifie bien, là, il ne faut pas faire la vente de vos actifs. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de transfert vers l'extérieur, je pense que ça peut être pertinent d'expliquer comment faire dans les grandes lignes. Premièrement, vous allez sélectionner l'actif que vous voulez transférer vers l'extérieur. Deuxièmement, soit c'est en anglais ou en français, vous allez mettre withdraw, transfert ou retrait. Vous allez ensuite choisir la blockchain qui est liée avec la crypto que vous voulez envoyer. Vous allez copier-coller l'adresse de réception, c'est-à-dire l'adresse sur laquelle je vais recevoir mes cryptos à l'extérieur. Et ensuite, le transfert va se faire directement sur la blockchain. Mais la grosse plus-value pour répondre à la question de notre auditeur, c'est que sur les centralized exchanges, pas besoin de vendre vos actifs.
Voilà pour cette explication très claire. On continue avec la question d'Alexandre. Je me suis lancé dans le monde des cryptos il y a environ un an en utilisant Bitstack puis Binance. Je cherche à savoir justement si Binance sera compatible Mika fin juin. Le service client est inexistant. Je n'y trouve aucune information. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Réponse d'Enzo. C'est une question très très alors, intéressante cette semaine spécifiquement.
Effectivement, on est en plein dedans et pour le coup très opérationnel puisqu'on le traite aussi en ce moment avec notre société, avec l'ensemble de nos clients.
Oui.
Binance, coup de tonnerre, n'a pas obtenu son agrément MiCA après l'avoir essayé de l'avoir passé en Grèce. Alors, est-ce que c'est une stratégie qui va être court terme? Est-ce qu'ils vont vouloir le repasser? Je ne sais pas. Donc, je dirais aujourd'hui que à partir du 1er juillet, tout ce qui va être programme de earn, tout ce qui va être dépôt, etc., vont être pour l'ensemble des clients européens. Donc, je conseille aujourd'hui, nous, on a recontacté l'ensemble de nos clients et l'ensemble de notre base de données de personnes qui pourraient avoir été clients chez nous, qui ont des comptes Binance pour les accompagner si besoin à fermer leur plateforme et à retirer, on va dire, leurs actifs vers d'autres plateformes qui ont obtenu leur agrément MiCA. Je pense que c'est aujourd'hui absolument important de sortir les actifs. Le stress qu'on peut avoir pour des plus petites sociétés. Alors, Binance, aujourd'hui, quand même, représente au moins un tiers du volume mondial et des encours. Donc, la problématique de retrait trop massif et qu'ils aient des manques de liquidité, je pense, est quand même assez limitée. Voilà.
Oui.
Donc, aujourd'hui, on peut retirer. Je pense qu'il vaut être dans les premiers, il vaut mieux être dans les premiers à retirer dans tous les cas de ce genre de plateforme. Je pense qu'ils ont quand même les reins assez solides pour avoir assez de liquidité. Mais moi, il y a quand même un autre quelque chose qui me frappe dans tout ça, c'est qu'on a les deux plus gros acteurs, que ce soit sur le stablecoin avec Tether et avec Binance avec sa plateforme, qui se coupent de l'Europe. Et pour moi, ça marque quand même un déclassement, malheureusement, de l'Europe comparé à l'Asie et aux États-Unis, puisqu'en fait, ils pourraient très bien se dire, comme Tether, en fait, l'Europe, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Avoir autant de réglementations nous coûte aussi cher pour un marché qui est en fait pas si grand. Et en fait, se dire aujourd'hui, comparé à ce que ça va nous générer en termes de rentabilité, peut-être qu'il vaut mieux couper l'Europe pour pouvoir aller sur d'autres secteurs qui sont aujourd'hui plus faciles à pénétrer. Donc, quand on voit Tether et Binance, c'est inquiétant dans la direction et le poids qu'a aujourd'hui l'Europe dans le marché des cryptos qui, en fait, devient nul.
Oui, c'est vrai que c'est deux très, très gros acteurs et ça nous a énormément étonnés d'entendre ça, mais c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a une possibilité, d'un point de vue purement pratique, qu'il y ait des comptes gelés, qu'il y ait des arrêts des services pendant un certain temps, à partir du 1er juillet, ou on ne sait pas ça encore?
Déjà, ils ont laissé déjà la possibilité de faire des retraits jusqu'au 31 juillet. Donc ça laisse quand même un mois, ce qui est quand même très très court.
Ouais.
On le voit aujourd'hui pour tous les acteurs qui n'ont pas obtenu leur agrément MiCA, que les retraits sont compliqués, les processus n'ont pas été très bien définis à l'origine, que c'est beaucoup de personnes qui doivent, on passe quand même de 77, donc pratiquement 80 sociétés à 20, donc c'est 5 fois moins. Tous ces actifs-là doivent bouger dans tous les sens. C'est à une semaine de la deadline. Binance nous apprend ça là. Enfin, je veux dire, tout est fait aujourd'hui dans l'urgence et je trouve assez mal fait d'un point de vue général. En tout cas, ce qui impacte aujourd'hui les acteurs et donc français et donc les épargnants français.
Vous pouvez aussi nous écrire hein, si ça vous concerne, si vous avez commencé à entreprendre ce genre de démarche et que vous avez des problèmes, vous pouvez nous écrire, nous raconter ce que vous vivez, parce que c'est vrai que ça nous intéresse de savoir comment ça va se passer. C'est massif,
ah oui,
vous l'avez dit, et c'est vrai qu'on a des questions, beaucoup de questions et assez peu de réponses sur cette période entre la toute fin juin et le tout début juillet. L'été sera aussi très, très intéressant à regarder à ce niveau-là. Pierre nous pose une question pour vous, Morgane. J'ai acheté différents paniers crypto sur Bitpanda pour quelques dizaines d'euros et sur une année, les ajustements mensuels créent des dizaines de transactions avec des montants inférieurs à 1 euro. Est-ce que je dois notifier tout ça dans le formulaire 2086 dont on parlait tout à l'heure? Il me semble avoir lu quelque part que les transactions inférieures à 1 euro n'étaient pas comptabilisées. Il ajoute, la fiscalité crypto est un vrai cauchemar, ça on est d'accord.
Alors, je vais donner deux filtres qui permettent en fait à toutes les personnes qui se posent justement ce type de questions de savoir comment est-ce qu'elles doivent réagir. Le premier filtre, c'est la nature de l'opération. Le deuxième filtre, c'est le seuil. Pour le premier filtre, la nature de l'opération, donc il faudrait voir au niveau des paniers sur Bitpanda, est-ce que c'était une conversion de crypto à crypto ou est-ce qu'on était sur une conversion de crypto à euro ? Crypto à crypto, il y a un sursis d'imposition et en fait, c'est basé sur l'article 150 VHBIS du CGI, donc il n'y a pas d'imposition. Par contre, quand on est sur une conversion de crypto à euro, c'est un fait générateur d'imposition et vous allez effectivement devoir rentrer cette opération dans le formulaire 2086. Ensuite, au-dessus de ça, on va venir imposer le deuxième seuil, enfin en tout cas le deuxième filtre qui est le seuil. Le seuil mentionné par notre auditeur d'un euro n'existe pas. Par contre, on a un seuil de 305 euros. Si vous êtes en dessous du seuil de 305 euros, vous avez une obligation de déclarer, mais pas de payer, puisqu'en fait, vous êtes exonéré. Au-dessus des 305 euros, là, vous avez non seulement une déclaration, mais surtout eh bien, une imposition qui va s'étendre sur la totalité de vos opérations, même les plus petits montants, eh bien, ils vont être concernés. Ensuite, j'aimerais rajouter quelque chose pour notre auditeur, parce que c'est là souvent où les particuliers oublient, vous allez voir que les sanctions, elles sont assez lourdes. Il ne faut pas oublier également de déclarer votre compte à l'étranger. La simple détention d'un compte à l'étranger vous oblige à le déclarer dans le formulaire 3916bis. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous ne le faites pas, vous avez une amende qui peut démarrer à 750 euros et qui peut facilement grimper jusqu'à 1500 euros si à un moment donné sur l'année, eh bien votre portefeuille y dépasse de 50 000 euros. Donc oui, les plus-values, la déclaration, c'est très important, mais surtout, n'oubliez jamais de déclarer votre compte à l'étranger. Et je tiens à préciser que même si vous n'avez pas d'argent sur ce compte, même si vous n'avez jamais fait de cession d'actifs, même si vous avez oublié que vous aviez un compte à l'étranger, eh bien il faut le déclarer puisque les sanctions sont assez lourdes.
Les sanctions sont assez lourdes, on l'a suffisamment dit pendant la période fiscale jusqu'à il y a quelques jours. Les impôts sont de plus en plus équipés pour voir toutes les fraudes possibles. Alors, vous pouvez toujours expliquer que vous étiez de bonne foi, que c'est nouveau et tout ça. Vous pouvez négocier, mais c'est vrai que les contrôles, notamment des gens qui ont des cryptos, sont aussi de plus en plus nombreux. Donc, évitez de jouer avec ça. Une dernière question. Allez, il nous reste deux minutes. Michel nous demande, je possède depuis quelque temps un compte chez Cryptcool sur lequel j'ai investi dans de l'or tokenisé avec sa crypto Vera One. Est-ce que cet exchange devra se mettre en conformité avec MiCA avant le 1er juillet? Car pour le moment, il n'y a aucune communication de leur part à ce sujet. Et dois-je retirer mes Vera One avant cette date fatidique, Enzo?
Oui, alors encore une fois, la même problématique. Alors effectivement, aujourd'hui, Cryptcool et Vera One sont MiCA compliance, on va dire. Alors pour moi, ils doivent obtenir cet agrément parce qu'ils permettent à des clients de faire des dépôts dans leur société contre justement ces Vera One. Alors il y a un côté qui est positif de ce que j'ai pu voir, c'est que l'équivalent des titres de propriété que vous détenez via ce jeton Vera One, ce titre de propriété équivalent à de l'or, n'est pas comptabilisé au bilan de la société. Donc c'est-à-dire que si la société fait défaut ou fait faillite, vous devriez pouvoir en partie récupérer vos petits. En revanche, la grosse problématique, et là c'est le gros point noir selon moi de ce modèle, c'est que ce token est uniquement listable, achetable, vendable sur la plateforme Vera One. Donc si elle fait faillite, elle n'existe plus, et donc vos jetons ne peuvent plus être ni vendus, ni utilisables, et donc en fait vous perdez quand même votre argent. C'est un peu la problématique de ce genre de sociétés centralisées qui veulent tokeniser des actifs qui en fin de compte ne sont pas compatibles avec d'autres plateformes. Ils ont créé leur modèle qui est un modèle qui fonctionne en silo, et malheureusement, en fait, si j'ai une maison aujourd'hui mais que je peux la vendre qu'à mon voisin, je me coupe quand même d'une certaine partie du marché. Donc il faut toujours regarder effectivement quand j'achète un actif, à qui est-ce que je vais pouvoir le revendre, parce que si je ne peux pas le revendre, il peut valoir très cher. Si je ne peux pas le revendre, ça ne vaut rien, tout simplement. Donc ce genre de problématiques sont importantes, je pense, sont importantes à comprendre.
Donc lui, spécifiquement, il vaut mieux qu'il les sorte.
Je pense qu'il vaut mieux sortir de ça, effectivement. Et je pense que l'or, pour le coup, ça s'achète plutôt soit en physique, soit via effectivement un ETF ou quelque chose comme ça, si on veut avoir, si ça nous dérange pas, pardon, d'avoir un petit peu de frais, quoi.
Ouais, effectivement, c'est un bon conseil. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient très nombreuses. Vous l'avez vu sur notre boîte crypto@bfmbusiness.fr. Merci Morgane Enlandu, fondatrice de Crypto 360, qui, je le rappelle, en donne des formations justement. Et voilà, si vous avez des choses à demander, ce sont des formations qui expliquent tout le monde de la crypto également. Merci Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Dans cette émission, on se retrouve tous les jours entre 15h et 15h30. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bon après-midi sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.